France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Marion, je te présente la petite Rosette.
C'est incroyable comme regarder un gros caillou peut vous faire un bien fou.
Pendant que vous étiez là-haut, j'ai encore examiné son écriture.
De l'égyptien ancien.
Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. En l'occurrence, il s'agit de hiéroglyphes.
L'écriture hiéroglyphique, pourtant utilisée pendant plus de 3000 ans, tombe dans l'oubli au 4e siècle de notre ère. Sa nature éminemment figurative conduit les savants à la considérer à tort comme une écriture uniquement symbolique, ce qui anéantit toute tentative de traduction. Il faut attendre 1799, en pleine campagne d'Égypte menée par Napoléon, pour qu'un événement change la donne, la découverte de la pierre de Rosette, une stèle sur laquelle est gravé un même texte en trois systèmes d'écriture. C'est cette pierre qui va permettre, quelques années plus tard, à Jean-François Champollion de percer enfin le secret des hiéroglyphes. Comment la pierre a-t-elle permis de redonner vie aux hiéroglyphes? Comment Jean-François Champollion a-t-il découvert la clé pour les déchiffrer? Comment la pierre de Rosette a-t-elle changé le monde? Et pour nous raconter cette histoire cryptée, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Virenque. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue et chargée de collection en lettres classiques à la Bibliothèque nationale de France. Et vous êtes co-commissaire de l'exposition L'aventure de Champollion dans le secret des hiéroglyphes en 2022 à la BNF. Et à nos côtés également, Laurent Coulot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue. Également, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Civilisation de l'Égypte pharaonique et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Nous l'avons dit, l'écriture hiéroglyphique a été perdue. Il a fallu la redécouvrir. Hélène Virenque, est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu comment, finalement, cette écriture a été perdue et si elle a été perdue rapidement ou non?
En effet, c'est au cours du 4e siècle de notre ère que la civilisation, que la terre égyptienne va passer d'un système polythéiste avec une mythologie et propre, enfin païenne, à un système chrétien, une religion chrétienne. Et pour s'adapter à cette nouvelle configuration, les habitants de la vallée du Nil n'ont plus utilisé cet alphabet qui était considéré comme païen. Vous aviez des animaux, des dieux avec des têtes un petit peu étranges. Voilà, ça ne pouvait pas correspondre à cette nouvelle religion. Et donc, ils se sont adaptés en empruntant l'alphabet grec, auquel ils ont ajouté sept lettres provenant de la langue dite populaire, l'écriture démotique, qui était utilisée à l'époque pour créer un nouvel alphabet qui est l'alphabet copte. Donc un système alphabétique qui correspondait davantage aussi à leur conviction religieuse et qui était aussi beaucoup plus sans doute pratique d'utilisation.
Laurent Coulon, il faut peut-être rappeler justement, et c'est un point assez essentiel, c'est qu'il y a différentes écritures. Quand on pense à l'Égypte, on pense hiéroglyphes tout de suite, mais en fait il y a plein d'écritures différentes, c'est ce que vient de mentionner un petit peu Hélène.
Oui, alors donc on a l'écriture hiéroglyphique qui est l'écriture sacrée, hein, donc qui est préférentiellement utilisée sur les monuments de l'Égypte, où on peut effectivement identifier très clairement la nature des signes. Et puis on a des écritures cursives. Alors la première, c'est l'écriture hiératique. Donc c'est une manière d'écrire très rapidement les hiéroglyphes. C'est ce qu'on appelle une tachygraphie avec des signes. Pour la plupart, difficilement reconnaissables, mais dont le tracé évoque globalement les hiéroglyphes. Donc ça c'est valable pour très large partie de l'histoire égyptienne, mais à partir de 700 avant Jésus-Christ, on a une autre cursive qui va être adoptée en Égypte, qui correspond aussi à une évolution de la langue égyptienne, c'est-à-dire le démotique. Donc l'écriture, elle est à la fois cursive, mais aussi beaucoup plus rapide que le hiératique. Et donc, les signes, là, sont à peine reconnaissables. Ce qui fait que, au moment de l'époque grecque, par exemple, au moment de la découverte de la pierre de Rosette, on a un système où coexistent plusieurs écritures en Égypte ancienne. L'écriture sacrée, l'écriture hiéroglyphique, a été conservée pour des raisons de prestige et de transmission aussi de la science sacrée. Et elle continue à encoder aussi une sorte de langue de tradition, hein, ce qui serait l'équivalent de notre latin pour le français actuel, avec voilà, une langue qui a assez peu évolué, ce qu'on appelle un égyptien de tradition. On a le hiératique qui continue à être utilisé pour notamment transcrire des livres des morts, et c'est pour ça qu'on lui a appliqué de manière tardive ce terme de hiératique, d'écriture sacrée, puisque dans la dernière période de l'histoire, il est cantonné à cet usage sacré. Et puis, on a le démotique, qui est là, la langue vernaculaire, et l'écriture qui encode cette langue vernaculaire qui est utilisée pour l'administration, la rédaction des papyrus.
Donc il y a à la fois sa simplification et évolution en fait dans ces différents différentes écritures. On peut rappeler aussi Hélène Virenque, le déclin en fait peut-être de l'époque pharaonique. On comprend qu'il y a plusieurs puissances étrangères qui prennent aussi tour à tour le contrôle du pays, et ça joue aussi finalement un peu sur le déclin peut-être de la civilisation et indirectement sur la langue qui est mise de côté.
Il est probable en effet qu'au moment où l'Égypte, au moment de la rédaction du texte de la pierre qui est inscrit sur la pierre de Rosette, la majorité des Égyptiens, déjà, on avait déjà très peu qui lisaient les hiéroglyphes, hein, c'était quand même quelque chose qui était réservé à une caste savante de lettrés et aux scribes, mais il y avait de moins en moins de personnes qui comprenaient et qui lisaient l'écriture hiéroglyphique qui était gravée dans les temples, et c'était beaucoup plus aisé pour eux de lire le démotique. Et coexistait aussi avec cette population de lettrés, des soldats, des commerçants grecs qui étaient installés en Égypte. Hein, il ne faut pas oublier qu'à l'époque ptolémaïque, donc l'époque de la rédaction de ce décret, ce sont des souverains grecs qui règnent en Égypte environ pendant 300 ans, de l'arrivée d'Alexandre, grosso modo, vers 332 avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Cléopâtre. Donc coexistent plusieurs ethnies en Égypte, et coexistent donc plusieurs systèmes d'écriture qui vont s'adresser à telle ou telle population.
Et en fonction du contexte aussi, sûrement du texte qu'on veut y écrire. Un petit point peut-être sémantique, est-ce qu'on doit dire hiéroglyphe ou écriture hiéroglyphique, Laurent Coulon? Je l'ai utilisé au début, mais hiéroglyphe, il me semble, au départ, désigne peut-être le graveur de signes.
Non, le terme hiéroglyphe désigne le signe, et l'écriture hiéroglyphique, en quelque sorte, le système d'écriture. Donc les deux peuvent être utilisés concurremment sans problème.
Ok, donc j'emploierai hiéroglyphe à partir de ce moment-là. Comment en fait est perçu finalement les hiéroglyphes par les autres mondes, notamment les Grecs? J'ai commencé à évoquer ce caractère éminemment symbolique en fait qu'on voit dans les hiéroglyphes. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pensé uniquement parce que ce sont souvent des textes sacrés qu'il y a derrière cela uniquement des symboles en fait dans la compréhension de ces textes, Hélène Virenque?
Il est probable que, alors, à l'époque ptolémaïque, on a une multiplication des signes hiéroglyphiques. Disons que, au départ, dans l'égyptien de tradition, l'égyptien classique dont parlait Laurent Coulon, il y avait environ 700 signes. À l'époque ptolémaïque, on a une multiplication, un croisement, des espèces de créations associant plusieurs signes qui fait qu'on passe à des milliers de signes. Et on parle d'écriture ptolémaïque, vraiment pour la distinguer. Cet encodage, on va dire, se révèle parfois assez complexe. Enfin, il est écrit de manière complexe pour rendre des choses qui étaient, somme toute, assez simples sur les divinités, leurs épithètes, leur rôle, la mythologie. Mais il y a c'est visuellement assez chargé, on va dire. Il y a sans doute un rapport à cette écriture qu'on comprend de moins en moins et donc qu'on saisit de moins en moins, qu'il faut imaginer des prêtres dans les temples discutant sur telle ou telle formulation et tel mythe qu'ils aimeraient développer. Donc on a un foisonnement religieux qui est très, très intense, hein, c'est une époque très importante aussi pour la mythologie égyptienne. Mais cette approche symboliste, c'est surtout lié à Aurapollon au 5e siècle après Jésus-Christ, qui va, face à cette écriture qui lui semble très complexe et qu'il ne peut plus lire, va dire que c'est la plupart du temps, ce ne sont que des symboles. Donc on sort d'une approche qui peut être phonétique, liée aux idéogrammes, pour arriver à quelque chose de purement symboliste, qui est aussi la réaction de quelqu'un face à un univers qu'il ne maîtrise pas. Au fond, cette religion égyptienne perd son sens, on ne la comprend plus, elle devient plus obscure et mystérieuse, et donc on va tout de suite, face au mystère, on va avoir une interprétation qui va être plus compliquée.
Laurent Coulon, sur cette capacité de surinterprétation, donc avant la pierre de Rosette, il y avait tendance finalement à en oublier que c'était un système d'écriture en fait.
Oui, alors ça prend ses racines déjà dans la pratique pharaonique, parce qu'effectivement si les hiéroglyphes, ces pictogrammes encodent une langue de manière finalement systématique, on peut avoir la possibilité d'utiliser ces pictogrammes pour ce qu'il représente et d'ajouter en quelque sorte un niveau supplémentaire de signification à ce qu'on a encodé linguistiquement. Je prends un exemple. On a la possibilité d'utiliser des signes particuliers pour leur valeur phonétique, mais aussi pour leur valeur pictographique. Quand on a voulu écrire, par exemple, le nom du dieu Atum au Nouvel Empire, certains scribes ont utilisé la valeur du scarabée qui avait la valeur T et ont utilisé la valeur des trois filets d'eau avec la valeur M. Donc ça fait Thème, l'écriture du nom Atum. Alors qu'on utilisait généralement pour transcrire ce nom du dieu Atum, d'autres signes plus courants, notamment celui du traîneau. Pourquoi ont-ils choisi ces signes? Parce que ça leur permettait, en superposant le scarabée avec la valeur T et les filets d'eau avec la valeur M, de construire une image qui montrait un scarabée, symbole solaire, symbole du soleil émergent, au-dessus d'une étendue d'eau, et donc d'avoir cette image du dieu créateur qui émergeait de l'océan incréé. On garde l'encodage linguistique, mais on ajoute par ces images une signification supplémentaire qui donne à voir quelque chose qui est lié à la nature divine de ce qui est représenté. Et ça, c'est une possibilité qui a fasciné les Grecs quand ils ont aussi baigné dans ce milieu alexandrin, où on avait des prêtres qui étaient aussi versés dans ces connaissances du système hiéroglyphique, et ils ont commencé à réfléchir de manière systématique à cette valeur symbolique, allégorique, qu'on pouvait accorder à certains hiéroglyphes. Et le traité d'Aurapollon que mentionnait Hélène tout à l'heure, justement, c'est une sorte de systématisation de liste de ces valeurs allégoriques, mais déconnectées de du système phonétique qui était initialement au cœur du principe hiéroglyphique.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Lorsque Bonaparte a entrepris sa mémorable expédition dans la vallée du Nil, il avait emmené avec lui tout ce que la France comptait de plus distingué dans les arts, dans les sciences et dans les lettres. Ces savants se sont mis pendant 2 ans à la besogne, et après le départ de leur général en chef, ils ont été retenus pendant quelque temps dans la vallée du Nil, de sorte qu'ils ont pu nous donner une monographie vraiment complète de l'Égypte moderne comme de l'Égypte ancienne. Non seulement ils ont, avec un soin tout à fait extraordinaire, relevé les monuments, ils en ont donné des coupes, mais ils ont aussi fait des fouilles, et c'est dans l'une de ces fouilles, dans une recherche opérée à Rosette, qu'a été découvert ce document tout à fait sensationnel, qui a été à l'origine de la fondation même de l'égyptologie, la pierre de Rosette, qui devait permettre à Champollion de déchiffrer le premier des hiéroglyphes et d'exposer le système graphique des anciens Égyptiens.
On a exposé là toute la suite de notre programme. Pierre Monté, professeur au Collège de France en 1958, une archive de l'INA, de la radiodiffusion française. Donc ce qui va permettre de découvrir finalement la pierre de Rosette par l'Europe, c'est la campagne d'Égypte menée par Napoléon pour l'instant qui est générale. C'est une campagne militaire en premier lieu, mais on l'entend, elle se double d'une expédition scientifique. Hélène Vérin, qui embarque en fait avec eux? Quels sont les savants? Quel type de discipline en fait on retrouve justement dans cette expédition?
Alors, cette équipe de savants porte le nom plus général de Commission des sciences et des arts. C'est environ 160 savants qui sont embarqués avec le général Bonaparte. Donc, il y a une expédition militaire et savante qui a lieu en parallèle. Dedans, il y a des ingénieurs, des géographes comme Edme Jomard, des botanistes, des dessinateurs comme Comté, des orientalistes, des gens qui parlent arabe, qui comprennent les langues du bassin oriental de la Méditerranée. Donc ce sont des profils très variés, avec cette volonté en effet de s'intéresser à l'Égypte ancienne et à l'Égypte contemporaine. Il y a vraiment une vision globale d'approche de la civilisation égyptienne depuis l'Antiquité. Et ils vont arriver avec des outils, des instruments, des feuilles, des relevés. Enfin, il y a cette idée de collecte, de prise de notes, de copies, de gravures, qui aboutira bien plus tard à la description de l'Égypte.
L'enjeu, du coup, est de faire une description globale de l'Égypte. Laurent Coulon, est-ce qu'il y a une feuille de route des objectifs, en fait, à ce moment-là, ou est-ce qu'on récupère un peu tout ce qu'on peut, en fait, à droite et à gauche?
Oui, il y a une volonté véritablement encyclopédique, hein, de documenter systématiquement tous les aspects du pays qu'est l'Égypte, à la fois les antiquités, mais aussi la vie quotidienne, toute l'Égypte moderne, aussi évidemment la faune, la flore, les minéraux, etc. Et on va avoir ce résultat absolument fabuleux d'une sorte de somme qui n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent, de documentation sur tous les aspects de l'Égypte, aussi bien d'un point de vue historique que naturel.
Et l'Égypte est considérée à ce moment-là comme un berceau des civilisations. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une aura, en fait, autour de l'Égypte à ce moment-là, Hélène Virenc?
Il y a déjà, par la présence de collections, de dons, de collections privées et de quelques collections dans les musées en Europe, un intérêt pour l'Égypte. Il y avait déjà des momies, des bandelettes de momies qui étaient présentes à Paris, dans des cabinets ou à la Bibliothèque nationale. Donc ça, c'était quelque chose qui existait. Et il y avait... On a eu des récits de pèlerins, de voyageurs, d'explorateurs qui s'étaient intéressés à l'Égypte, avec toujours cette limite de ne pas pouvoir accéder à l'écriture. Donc avec des hypothèses sur les monuments qu'ils découvraient, les pyramides, les tombes, à qui c'était destiné. Il y avait une limite, on va dire, scientifique à leur prospection. Mais oui, il y avait déjà eu des publications avec des relevés, des architectes qui avaient visité la vallée du Nil avant Bonaparte.
Et c'est une bataille justement qui a lieu à Aboukir le 15 juillet 1799. L'armée française cherche à se retrancher en fait dans une forteresse médiévale à Rachid, dont le nom francisé est Rosette. Et c'est là que la pierre va être découverte, Laurent Coulon.
Oui, alors c'est son...
Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé finalement? Parce qu'il y a peut-être une romantisation.
On procédait à des travaux de réfection effectivement dans cette forteresse. Et puis on est tombé sur une pierre qui avait été employée déjà anciennement dans ce fort. Et donc le lieutenant Bouchard va tout de suite identifier l'intérêt de cette pierre. Et c'est ça qui est aussi très marquant dans cette découverte, c'est qu'il y a... Elle intervient dans un contexte où elle était presque, je dirais, attendue. Et le lieutenant Bouchard, qui va pouvoir très vite s'apercevoir de l'intérêt de ce monument, décoder aussi dans la partie grecque de l'inscription l'idée que c'est un document en plusieurs écritures. Et donc tout de suite, cette pierre va être extraite et envoyée au Caire pour qu'elle soit l'objet d'une étude plus systématique.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Hélène Virenc? C'est une grande pierre.
Voilà, c'est une grande pierre. C'est vrai qu'à force de voir sa silhouette, on ne sait pas trop quelle taille elle a.
Elle est énorme.
Un peu plus d'un mètre de haut. Mm-hmm. Et elle pèse environ 700 kilos. Donc c'est une grosse pierre de granit, granit gris. Et elle est à la fois sa silhouette, donc on voit qu'on connaît très bien, et elle n'est à la fois pas représentative de la stèle qu'elle était à l'origine, puisqu'il manque une grande partie du texte hiéroglyphique. Mm-hmm. Et on sait que ça s'élevait un peu plus de, sans doute... qu'elle faisait un peu plus de 2 mètres de haut, et que la partie supérieure était cintrée comme étaient la plupart des stèles égyptiennes Voilà, c'était avec une frise de divinité de roi et reine au sommet qui dominait le texte.
Ça veut dire qu'il manque en fait une grosse partie en fait de la partie.
Exactement, il manque une grosse partie. Le texte grec est quasiment préservé dans
c'est
son
le plus bas.
Entièreté.
Si on reprend du haut au plus bas, c'est l'hiéroglyphe en haut, démotique au milieu, on va y venir, et grec en bas.
Ouais. Donc le texte démotique et le texte grec sont conservés dans leur plus grande grande partie, mais la partie hiéroglyphique, il manque entre 22 lignes à peu près. Donc c'est aussi une stèle dont il manque des éléments et l'iconographie de la partie supérieure. Mais des propositions de restitution ont été faites et on a aussi on a d'autres types de décrets de ce type qui ont été découverts ultérieurement en Égypte, on arrive assez bien à restituer la silhouette d'origine.
Et est-ce qu'on fait des copies dès ce moment-là, Laurent Coulon, quand elle arrive
au
Caire ?
On va tout de suite utiliser toutes sortes de procédés pour faire des copies relativement précises. Alors type estampage, calcographie, etc. Et ces copies vont être envoyées à Paris relativement rapidement. Parce qu'ensuite, la pierre va être dérobé en quelque
confisqué.
Sorte.
J'avais confisqué.
Voilà, je sais pas quel terme utiliser. Suite à la capitulation française, ça a été une longue négociation entre les Français et les Anglais. Les Français souhaitaient conserver les objets qu'ils avaient pu collecter en présentant toutes sortes d'arguments. Les Anglais n'ont pas cédé sur cette revendication, laissant quand même aux Français toute la documentation scientifique qu'ils avaient pu accumuler. Et c'est pour ça que finalement la pierre de Rosette a été envoyée à Londres assez rapidement. Et à Londres également, d'autres copies vont être faites et diffusée aussi ensuite dans toute l'Europe.
Elle est exposée dès 1802 au British Museum, elle y trône encore. Si on commence à pouvoir parler justement des débuts de traduction, dès le début, on voit qu'il s'agit du grec pour la dernière partie, Hélène Virenc. Là, on commence directement à tenter de traduire. J'ai cru comprendre que même si c'était du grec, donc une langue qui est bien connue, c'était pas si simple non plus de pouvoir le traduire, simplement parce qu'on sait pas vraiment ce que ça veut dire au départ, ou pas ? Peut-être que je me trompe.
Alors, comme parmi les membres de la commission d'Égypte, on avait des savants qui étaient versés dans les lettres classiques, très rapidement, même Bouchard, je crois, qui avait fait Polytechnique, qui avait une bonne formation, ont eu une idée assez rapide de ce que comportait ce texte grec. Il y a eu effectivement des erreurs sur quel pharaon était mentionné, etc. Il y a eu des erreurs de date au début. Mm-hmm. Par contre, ils ont très rapidement identifier, pu lire la dernière ligne du texte grec, qui est importante parce qu'il est dit, c'est ce passage-là, il est dit, ce décret a été gravé en écriture sacrée, en écriture vernaculaire.
J'ai le texte là,
vous
sous les
le texte,
yeux, j'ai
oui.
Qu'on inscrive ce décret sur une stèle de pierre dure, en écriture sacrée, donc hiéroglyphe, en écriture encoriale, donc démotique, et en écriture grecque, et qu'on la fasse dresser dans les temples.
Oui. Donc à partir de ce passage, cette séquence, très rapidement, les savants ont compris qu'il s'agissait d'un même texte rédigé en trois écritures. Donc c'est pour ça que dans les comptes rendus qui sont faits de la découverte de la pierre dans le courrier puis la décade égyptienne, donc des publications imprimées en Égypte et destinées à l'armée de Bonaparte, on se dit que ça, il y a la possibilité d'une clé avec ce décret qui est en trois écritures. Donc le texte grec, c'est le plus complet, donc c'est celui qui va être aussi copié et envoyé et diffusé le plus rapidement possible, que ça soit par les Français puis par les Anglais eux-mêmes. On parle souvent du conflit entre l'Angleterre et la France.
Mais là, c'est toute l'Europe qui est
concernée. Et n'oublions pas que les Anglais, sont entrés en possession de la pierre donc à Londres, ils ont eux-mêmes fait des moulages qu'ils ont envoyés à des universités anglaises, mais aussi des copies plutôt autographes, des estampages qu'ils ont envoyés à diverses universités et à l'Institut à Paris, à l'Institut et à la Bibliothèque nationale. Donc il y avait quand même une volonté de partage dans le monde savant de ce tout début du 19e siècle.
Mais pas qu'une concurrence, elle existait.
Elle a coexisté avec une volonté de solidarité, parce que le but était d'arriver à une traduction et un déchiffrement des hiéroglyphes.
Laurent Coulon, quel est le contenu de la pierre? On n'a pas lu un extrait ici parce que le texte est en fait très long, mais est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de quoi il s'agit? Je crois qu'il s'agit d'un compte-rendu en fait de réunion.
Oui, alors ça appartient au genre de ce qu'on appelle les décrets synodaux, c'est-à-dire des moments de réunion entre le pouvoir alexandrin, le pouvoir ptolémaïque, et les prêtres indigènes de toute l'Égypte, donc qui se réunissaient au départ annuellement, et puis ensuite il y a eu un plus grand espacement dans les réunions pour pouvoir adopter un certain nombre de mesures. On s'est aperçu que les décrets, quand ils étaient publiés, venaient aussi souvent après des batailles remportées par le pharaon. Donc c'est l'occasion de prendre des mesures de célébration du pharaon vainqueur qui a combattu les ennemis de l'Égypte, mais qui a aussi réprimé les révoltes intérieures. Et puis de célébrer aussi la générosité de ce pharaon qui a exempté les temples d'un certain nombre de taxes. Voilà, et donc on liste en quelque sorte les avantages fiscaux qui sont obtenus ou maintenus pour les différents temples. Et puis on va donner quelques indications sur certaines mesures liturgiques, inclure par exemple la statue du pharaon dans certaines célébrations, etc., etc.
Comment a-t-on déchiffré les hiéroglyphes et quelle est la contribution de Champollion? C'est la suite de notre programme juste après ça.
Faro
de Moderne Nature sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui la découverte de la pierre de Rosette en compagnie d'Hélène Virenque, égyptologue chargée de collection en lettres classiques à la Bibliothèque Nationale de France et co-commissaire de l'exposition L'Aventure de Champollion en 2022 dans le secret des hiéroglyphes à la BNF, ainsi que Laurent Coulon, égyptologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Civilisation de l'Égypte pharaonique et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Je voudrais qu'on en vienne finalement à ces débuts de tentatives de déchiffrement des hiéroglyphes. Il est important de comprendre qu'en fait, avant la pierre de Rosette, on avait quand même tenté de pouvoir voir certaines correspondances, au moins avec certains signes, Laurent Coulon.
Oui, tout à fait. Les premières tentatives de déchiffrement sont le fait de savants arabes médiévaux. Et puis, à l'époque de la Renaissance, avec la diffusion du traité d'Orapollon, il y a une certaine effervescence autour de l'interprétation des hiéroglyphes. Alors, on a quelques tentatives marquantes, hein, celle d'Athanase Kircher au XVIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'Athanase Kircher avait bien perçu le fait que la langue égyptienne avait été encore conservée par le copte, hein, mm-hmm. par cette liturgie des chrétiens d'Égypte, hein, qui était encore...
Qui existe encore à l'heure actuelle.
Voilà, exactement. Mais malgré cette intuition, il est parti dans une interprétation symbolique, allégorique des hiéroglyphes. Et quand on lit ces traductions, c'est extrêmement fleuri. À partir de deux signes, il écrit deux phrases entières qui n'ont que peu de lien avec ce qui était initialement encodé par l'hiéroglyphe. Et ensuite, eh bien, on va avoir des progrès intéressants réalisés par des premiers linguistes, en quelque sorte, le révérend Warburton, qui approche... Enfin, qui ont une approche beaucoup plus, on va dire, scientifique de ce que c'est qu'une langue, une écriture. Et puis, au XVIIIe siècle, le personnage important, c'est l'abbé Barthélemy, qui va établir les premières méthodes, en quelque sorte, systématiques de déchiffrement. Donc, il va réussir à déchiffrer des écritures comme le palmyrénien ou le phénicien.
C'est important de souligner qu'en fait, c'est pas sur les hiéroglyphes sur lesquels il travaille au
voilà,
départ.
Voilà, ce sont d'autres écritures proche-orientales. Mais il va définir les conditions par lesquelles on peut déchiffrer une écriture inconnue, c'est-à-dire rassembler suffisamment de documents. Copier de manière précise, travailler sur des bilingues, et ça c'est extrêmement important, et puis commencer par les noms propres, les anthroponymes. Et il va d'ailleurs ensuite essayer d'appliquer cette méthode aux hiéroglyphes et va même réussir à comprendre que les noms propres égyptiens royaux sont enserrés par ces formes ovales, ce qu'on appelle des cartouches, et c'est lui qui va être le premier à identifier cela.
Et cette identification des cartouches, c'est quelque chose que va refaire ou va reprendre en fait Thomas Young. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qui il est en quelques mots?
Oui, Thomas Young est un savant, physicien, médecin anglais qui s'intéresse aussi à l'écriture égyptienne et qui est proche des milieux des antiquaires qui vont accueillir donc la pierre de Rosette en 1802, la Société of Antiquaries. Et c'est quelqu'un qui a on parle souvent de polymathe, enfin de polyvalent, c'est quelqu'un qui s'intéresse à plein de domaines différents et qui va reprendre donc, qui va être un des concurrents, un des compléments de Champollion dans cette quête des hiéroglyphes. Il va publier dès 1819. Donc c'est vraiment, il y a des travaux qui sont parallèles à ceux de Champollion et ils vont beaucoup échanger là-dessus. La méthode de Thomas Young est souvent, il parle souvent d'intuition qu'il a, mais il n'utilise pas le copte. C'est aussi un de ses, il n'a pas compris, il n'a pas vraiment saisi l'importance du copte, qui est le dernier état de la langue égyptienne, en quelque sorte, pour la traduction des hiéroglyphes. Mais il a des bonnes intuitions, sans toutefois avoir une compréhension aussi fine que Champollion des sons qui sont représentés dans cet aspect, dans la version hiéroglyphique. Il faut dire aussi qu'au niveau de la méthode, on est toujours très centré sur les hiéroglyphes de la pierre de Rosette, mais dans la méthode d'étude, on a dit que c'était d'abord l'inscription grecque qui avait été comprise, et les premiers parallèles se font avec les premières comparaisons, puisqu'on va comparer ces deux types de textes, les plus complets qui sont démotiques et grecs, et donc le hiéroglyphe n'intervient que dans un second temps. C'est d'abord le croisement, le parallèle entre le texte grec et le texte démotique. Et en fait, dans cette méthode générale qu'a Champollion, on parle souvent de... C'est une progression qui est à l'envers de la chronologie. On va commencer par l'état le plus récent de la langue et remonter au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qu'on perçoit. Et aussi... On perçoit dans cette, je parle de la méthode Champollion, et cette manière de travailler sur les différentes écritures qu'on évoquait en début d'émission en même temps. Il travaille sur l'écriture hiéroglyphique, sur le hiératique, sur le démotique. Et un an d'ailleurs avant 1822, comme en 1821, il publie deux mémoires, un mémoire sur le hiératique et un mémoire sur le démotique, ce qui prouve que c'est une progression, une étude qu'il fait en parallèle dont la lettre à d'acier dont on reparlera, insiste sur les hiéroglyphes, mais c'est l'intérêt de Champollion se manifeste sur les différents types d'écriture, et ça c'est ce qui l'anime pendant des années avant le déchiffrement. Et
j'aimerais comprendre justement comment se manifeste l'intérêt de Champollion finalement pour les hiéroglyphes, comment il arrive finalement à s'intéresser à la pierre de Rosette et même aux hiéroglyphes en général, Laurent Coulon.
Il y a certainement un rôle de son frère, Jacques Joseph, donc qui est son aîné de 13 ans, qui s'était intéressé, lui, à la partie grecque de la pierre de Rosette. C'est un helléniste, mais aussi un féru de langues orientales. Et très vite, il va encourager son frère, donc Jean-François, à s'intéresser à ce document, aussi à cette quête aussi de la compréhension des hiéroglyphes. Jean-François, lui aussi, va apprendre un grand nombre de langues orientales.
Il est polyglotte, oui, il parle beaucoup de langues.
Il va se focaliser en quelque sorte sur l'Égypte, comme son terrain d'étude privilégié, avec les encouragements toujours de son frère, qui va en quelque sorte jouer une sorte de figure paternelle, d'aide constante dans les travaux de Jean-François, d'encouragement et aussi de protection en quelque sorte institutionnelle, puisqu'il c'est lui qui va avoir les contacts avec les membres de l'Institut. Et il y a une forte importance de ce soutien scientifique. Les premiers contacts vont être aussi avec Sylvestre de Sacy, cet orientaliste qui joue un très grand rôle dès les débuts de déchiffrement en 1801, avec le diplomate suédois Åkerblad qui s'associe à Sylvestre de Sacy pour faire les premières listes de caractères phonétiques, démotiques, qu'il peut comprendre à partir de la comparaison avec la partie grecque. Et Jung va reprendre en quelque sorte à leur suite cette méthode, lui donc, comme ça a été dit, de manière beaucoup plus systématique, en alignant des phrases entières de la partie grecque avec la partie démotique et avec la partie hiéroglyphique.
Un mot sur la relation peut-être entre Jung et Champollion. Ils échangent énormément, mais leurs échanges sont plutôt cordiaux.
Oui, c'était quelque chose qu'on a perçu lorsque, en 2022, on a présenté cette exposition à la Bibliothèque nationale de France, en s'appuyant sur les manuscrits, sur les papiers Champollion qui y sont conservés. C'est qu'on a une, loin de la vision binaire d'une opposition entre un Anglais et en français, et donc aussi entre deux nations. Il y a des échanges qui sont constants. Ils lisent chacun les avancées de l'autre, les publications. Ils s'envoient des articles, ils s'envoient leurs avancées, tout en restant parfois, on voit du côté de Champollion, un peu plus prudent.
Il ne publie pas tout ce qui est...
Il ne publie pas tout. Champollion attend souvent d'être sûr de ce qu'il... affirme avant que ça soit publié, ce qui explique aussi que beaucoup de choses aient été publiées après sa mort, parce que il a été aussi très pris par le temps et parce qu'il voulait être certain de ses hypothèses. Dans les échanges avec Jung, il y a parfois des tensions sur en disant j'avais un petit peu supposé ce que vous dites, je l'avais quand même un peu anticipé. Alors après la lettre à d'acier, Jung dit très clairement j'ai fait ce que j'ai à faire, je vais laisser ce jeune Champollion. Il y a aussi un petit décalage d'âge entre les deux, et Jung Jung s'intéressait aussi à d'autres choses. Il a moins c'est moins le profil polyglotte s'intéressant à l'ensemble de la civilisation égyptienne qu'avait Champollion. Donc il avait de toute façon il n'avait pas les mêmes cartes en main que ce Champollion qui déjà à 17 ans faisait un exposé sur l'Égypte ancienne en fait.
Laurent Collomb-Voulaire.
On peut dire aussi que Jung avait beaucoup moins d'empathie pour la civilisation pharaonique que n'avait Champollion. On sent même parfois chez Jung un certain mépris pour la religion égyptienne, pour ses figures de Dieu.
Il ne devait pas être le seul non plus à cette époque.
Alors que Champollion s'est toujours montré extrêmement enthousiaste de toutes les créations pharaoniques. Et ça a certainement aussi nourri son obstination à aller jusqu'au bout dans le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique.
En procédant par juxtaposition des textes grecs et hiéroglyphiques de la pierre de Rosette, le physicien anglais Young réussit à identifier le nom de Ptolémée. Mais manquant de connaissances philologiques, son investigation piétine, malgré un relatif succès quant à l'interprétation juste qu'il propose de certains symboles. L'occasion d'un grand progrès est fournie à Champollion par la découverte d'un obélisque à Philée, qui comporte le nom de Cléopâtre. Il peut alors établir bon nombre de correspondances en admettant que certaines consonnes peuvent s'écrire différemment, telles le F et le PH français. Disposant dès lors d'un début d'alphabet, Champollion applique sa trouvaille à toutes sortes de noms propres, dont on sait qu'ils sont grecs ou romains. En interprétant les symboles laissés vides de correspondance par son alphabet incomplet, il traduit le nom d'Alexandre et découvre du même coup de nouvelles valeurs. La méthode se révèle bonne également pour les noms propres des pharaons égyptiens. La traduction des noms de Ramsès et de Toutmès constitue pour lui un succès décisif. Son coup de génie fut d'avoir imaginé que cette écriture d'allure si symbolique pouvait être à la fois idéographique et phonétique. Personne avant lui n'avait envisagé cette hypothèse.
Une archive de l'INA de 1973, une émission de l'ORTF appelée Champollion ou l'homme qui lisait les pierres. Ce qu'on entend et ce sur quoi je voulais appuyer en publiant cette archive, c'est que Champollion n'utilise pas que la pierre pour faire ses travaux. C'est peut-être d'une évidence, mais je pense que c'était important de pouvoir le rappeler, Hélène Virenc.
Donc, effectivement, la pierre n'est qu'une clé très importante, mais n'est pas l'unique document qu'il a employé. Dans les correspondances entre Champollion et son frère Champollion Figeac, on voit qu'il dispose qu'il souhaite et qu'il cherche à avoir le maximum d'inscriptions, de copies, de dessins de personnes qui ont fait des relevés en Égypte et qui lui communiquent ces relevés, de copies d'ouvrages présentant des inscriptions hiéroglyphiques ou bilingues que son frère lui fait parvenir, des livres qu'il va consulter en bibliothèque, des inscriptions inédites issues d'objets qui sont dans des collections privées ou nationales. Et cette moisson de documents est fondamentale. La pierre de Rosette rajoute une clé parce que c'est un texte qui est, on l'a dit, très bien conservé et en trois écritures. Mais par exemple, il y a une limite puisque c'est au niveau des lettres correspondant à des sons, donc qu'il identifie pour par exemple le pharaon Ptolémée, il dispose d'un nombre de lettres qui est trop limité, et donc c'est ensuite qu'il va étudier l'obélisque de Philée où on a le nom dans un cartouche donc d'une reine Cléopâtre. Donc il a besoin d'utiliser d'autres documents, des papyrus bilingues démotiques, le papyrus Cassati, et d'autres documents du même type pour pouvoir enrichir aussi son corpus et disposer d'un vocabulaire aussi plus large, parce que c'est pas ce qui est intéressant, oui, c'est intéressant d'avoir un décret, donc un texte, on va dire, assez politique, stratégique sur la politique intérieure de l'Égypte, mais aussi important d'avoir des textes funéraires, d'avoir des mots employés dans d'autres contextes, d'avoir des anthroponymes plus variés, et progressivement aussi de glisser c'est ce qui a été expliqué dans l'archive, c'est qu'au début, il s'intéresse au nom des cartouches donc de pharaons étrangers qui sont transcrits en égyptien, phonétiquement, Cléopâtre, Ptolémée, Arsinoé, etc. Et il remonte le temps au fur et à mesure, lorsqu'il comprend qu'un signe peut exprimer aussi plusieurs lettres à la fois, et en tendant vers Ramsès et vers Toutmosis. Donc il remonte l'histoire égyptienne au fur et à mesure. La lettre à Dacier, il évoque vraiment les souverains grecs et romains, mais on le verra par la suite. Après, il approfondit sa compréhension.
On va y venir juste ensuite, mais ce qui est important peut-être de comprendre, c'est que toute cette littérature, toutes ces données qui sont à côté, en fait, lui servent à tester ses hypothèses, Laurent Coulon. C'est un point fondamental, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller chercher ailleurs finalement pour voir si ce qu'il a lu ou ce qu'il traduit en fait de la pierre de Rosette se retrouve ailleurs.
Exactement, et en fait, la grande force de Champollion au moment où il va réussir le déchiffrement, c'est qu'il peut mobiliser une documentation qu'il a construit systématiquement, presque aussi un dictionnaire entier du copte, de nombreuses fiches qui sont maintenant d'ailleurs conservées aussi dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, énormément de documentation qu'il peut très vite mobiliser quand il a une intuition nouvelle, et c'est ça qui va lui permettre ensuite d'aller extrêmement rapidement dans les progrès ultérieurs. Parce qu'il faut aussi comprendre que peu avant 1822, Champollion est complètement empêtré dans l'idée d'une écriture hiéroglyphique qui serait entièrement symbolique, idéographique en quelque sorte. Pour lui, le phonétisme va être comme une sorte de révélation qui va venir tardivement. Certes, eh bien, il connaît Åkerblad, il connaît Thomas Young, mais pour lui, ce sont des choses qui sont en quelque sorte marginales dans la compréhension du système, jusqu'à ce qu'il réalise que finalement, non, c'est là que réside la clé du problème et que ces valeurs phonétiques de certains hiéroglyphes sont une clé fondamentale pour construire le système. Donc il se place forcément, là, quand il réalise cela, dans la lignée de ce qu'ont fait Åkerblad et Young. C'est pour ça d'ailleurs que Young va pouvoir revendiquer une partie de la découverte. Mais lui, grâce à toute la documentation qu'il a établie et à une compréhension beaucoup plus globale du système, il va en faire un système de déchiffrement, ce que n'était jamais arrivé à faire Thomas Young, qui avait établi un certain nombre de valeurs de mots et de signes égyptiens, mais qui s'avéraient pour la moitié fausses.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Le 27 septembre 1822, il présente un discours et une lettre à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres qu'on a conservé comme la lettre à Monsieur Dacier. On a commencé à parler. Monsieur Dacier était le secrétaire perpétuel, justement. 13 jours plus tôt, il aurait annoncé à son frère qu'il tenait son affaire un petit peu comme un eureka. Il présente donc dans cette lettre ses découvertes. Mais ce qui est important de comprendre ici, Laurent Coulon, c'est qu'il y a une forme de déformation de l'histoire, une forme de fake news. C'est que c'est pas tout à fait à ce moment-là qu'il a absolument tout déchiffré. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, en fait, on a voulu rassembler en une seule journée, cette journée du 14 septembre 1822, un processus qui s'est étalé sur plusieurs mois. Dans la lettre à M. Dacier, comme ça a été rappelé par Hélène tout à l'heure, Champollion va établir un système de déchiffrement des noms grecs et romains à partir d'un alphabet de signes phonétique, et dans cette lettre, il annonce que on pourrait aussi déceler la présence de ces signes phonétiques à une époque antérieure, mais uniquement, et ça c'est très bien précisé dans la lettre, pour la transcription de noms étrangers à la civilisation pharaonique. Et donc dans la lettre à Monsieur Dacier, dans sa première édition, c'est très clair, il n'est allé que jusqu'à identifier ce système de transcription des noms étrangers, cette écriture, ce qu'il appelle auxiliaire. Il n'est pas encore parvenu à comprendre le système mixte de l'écriture pharaonique qui comporte à la fois des signes phonétiques et des signes idéographiques. En fait, la biographe de Champollion, Hermine Hartleben, a inclus dans la journée du 14 septembre 1822 des événements qui sont très probablement intervenus beaucoup plus tard, quelques mois après, c'est-à-dire la lecture de ces cartouches de Ramsès et de Thoutmôsis. Mais si véritablement Champollion avait découvert la lecture de ces cartouches pharaoniques dès le 14 septembre, il n'aurait pas du tout rédigé la lettre à Monsieur Dacier de la façon dont elle est rédigée dans sa première édition. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'ensuite, dans la deuxième édition de la lettre à Monsieur Dacier, en 1828, quand il l'inclut dans une nouvelle version du précis du système hiéroglyphique, là, il va modifier certains passages qui s'avéraient erronés dans la nouvelle compréhension qu'il a. Donc, c'est entre 1822 et 1824 que, véritablement, cette compréhension globale du système hiéroglyphique va intervenir. Et donc, on ne peut pas... résumé à septembre 1822, la date du déchiffrement des hiéroglyphes, même si on a voulu en faire un coup de génie, si on a voulu avoir une unité de lieu et de temps pour cette révélation du système hiéroglyphique. Bon, il faut rétablir en quelque sorte la vérité historique. Ça n'enlève rien à ce processus génial qu'a suivi Champollion pour arriver... En deux ans, à comprendre l'essence même du système hiéroglyphique.
Un petit mot également, Champollion n'a peut-être jamais vu la pierre de Rosette ? C'est une question à droite et à gauche, c'est pas tout à fait clair selon les sources qu'on lit.
Il n'y a aucun témoignage dans ses manuscrits, dans sa correspondance, dans les échanges avec son frère, qu'il ait jamais vu la pierre. Les copies sont évoquées, dès 1808-1809, il sollicite son frère pour obtenir des bonnes copies de la pierre, mais on n'a aucune preuve qu'il l'ait vue. Et en fin de compte, c'est... Parce que moi, je me dis que s'il l'avait vu, il l'aurait peut-être dit. Mm-hmm. Mais comme Champollion, ce qui l'intéressait, c'est les inscriptions. C'est d'avoir des copies des inscriptions pour rassembler, étoffer sa documentation. Il y a peut-être la trace d'un passage d'un séjour en Angleterre, mais plutôt à Cambridge. Mais c'est très peu. Alors, est-ce qu'il a voyagé avec son frère et donc il n'y a pas de témoignage de lettres puisqu'ils étaient ensemble? Mais les différents biographes de Champollion ne mentionnent pas de voyage. Donc ces deux images, cette silhouette de la pierre et ce portrait de Champollion qu'on voit habituellement, c'est un petit peu erroné, ça nous induit en erreur aussi. Et par rapport à ce que disait aussi Laurent Coulon, il y a aussi ce mythe du génie à l'œuvre qui s'épuise et qui tombe dans les pommes, en plus s'épuise devant son frère, son mentor, son parrain. Donc ça, c'est une construction postérieure de sa biographe et aussi de certains de ses descendants qui ont publié des biographies ou des correspondances. Oui.
On peut le citer, en 1831, il prend la première chaire d'égyptologie au Collège de France, voilà, je l'ai dit. Il meurt ensuite assez jeune, donc du coup en 32. D'autres de ses travaux seront publiés par son frère, qui va aussi permettre de donner en fait ses travaux et de les publier.
Oui, alors son frère va avoir un rôle fondamental dans la publication notamment de la grammaire égyptienne, hein, qui est le grand œuvre de Champollion. Autant le précis du système hiéroglyphique qui a été publié en 1824, c'est une sorte d'œuvre un peu polémique, alors où il expose aussi son système, mais il combat Young, et puis il y a toujours cette querelle de la préséance. Donc ça en fait un ouvrage extrêmement riche, novateur, mais aussi avec beaucoup de scories, tandis que la grammaire, c'est vraiment un ouvrage dépouillé de tout cet aspect polémique, un ouvrage de référence où il expose systématiquement la connaissance qu'il a maintenant du système hiéroglyphique.
Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la reconnaissance totale de cette découverte ne vient pas tout de suite, Hélène Virenc.
Elle est assez tardive. Champollion avait des détracteurs de son vivant. C'est aussi cette prudence à la publication, cette volonté d'étayer cette hypothèse pourrait être aussi une explication. Il a eu des détracteurs en France et aussi à l'étranger. Donc ça a mis du temps à s'installer. C'est les publications françaises qui ont assis sa la reconnaissance de ses travaux et aussi d'autres expéditions. En 1842, un grand égyptologue allemand, Lepsius, a fait une expédition un peu similaire à celle de Bonaparte en Égypte en recueillant le maximum d'inscriptions, et il a confirmé en grande partie que les hypothèses de Champollion étaient justes. Et ensuite, il y a eu tous ces centenaires de sa naissance, de sa mort, du déchiffrement en 1922. Donc il n'y a plus de polémique, il n'y a plus lieu d'être. Il avait, dans sa grammaire, établi les principes de la traduction à, on va dire, à 80-90%. Après, il y a eu des évolutions à la marge et surtout des précisions qui ont été apportées sur la prononciation de l'égyptien. Mm-hmm. Mais il avait fait l'essentiel du travail, oui.
Et c'est là que va commencer véritablement l'égyptologie en tant que discipline, Laurent Coulon ?
Oui, tout à fait, puisqu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre aux savants, c'est-à-dire Avant, on connaissait l'Égypte à travers les récits des auteurs classiques, hein, Hérodote, Strabon, Plutarque, etc. Là, on va pouvoir lire les textes égyptiens directement. On va pouvoir organiser la matière égyptienne de manière beaucoup plus précise, construire une chronologie en séparant les documents qui viennent de plutôt de l'Ancien Empire, de ceux du Moyen Empire, de ceux du Nouvel Empire. Donc en fait, répartir toute cette masse d'inscriptions hiéroglyphiques dans un continuum historique, connaître la théologie des dieux égyptiens directement d'après les inscriptions qui se rapportent à elles dans les temples. Et tout un nouveau monde s'ouvre avec le déchiffrement des hiéroglyphes.
Ça permet d'avoir peut-être une vision un petit peu moins fantasmée. J'aimerais vous interroger tous les deux. Vous êtes peut-être un petit peu biaisés sur la fascination pour l'Égypte, mais on voit en fait dans le grand public, on voit au travers des expositions qui rassemblent des millions et des millions de personnes, qu'il y a encore cette fascination incroyable pour l'Égypte. Hélène Virenc.
Oui, elle perdure. Elle perdure en France grâce aux collections du Musée du Louvre, aux grandes expositions qui ont eu lieu depuis les années 70. Sur Toutankhamon, sur Ramsès et encore les plus récentes sur Toutankhamon à Paris et ailleurs. Ça continue à fasciner, même si parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours des fouilles qui ont lieu en cours en Égypte. Vous voyez que l'attente qui est considérable de l'ouverture du grand musée égyptien au Caire, à Gizeh. Donc effectivement, c'est aussi entretenu par le tourisme, toutes les possibilités que ont les gens, quel que soit leur âge, voilà, public familial, et cette fascination qui reste enfantine en fait auprès des plus petits sur ces dieux à tête animale et ces hiéroglyphes et comment écrire son prénom en hiéroglyphe. Ça, c'est un des premiers amusements des enfants qui est assez touchant, oui.
Laurent Coulon, sur cette fascination, peut-être une explication de cette fascination en fait qui perdure pour l'Égypte.
Difficile véritablement de l'expliquer par une seule cause. L'idée d'une civilisation qui est à la fois encore proche, hein, puisqu'on peut accéder directement aux monuments égyptiens. Les pyramides sont là. Ce sont des rares merveilles du monde qui n'ont pas été balayées par l'histoire. Et puis, vraiment une étrangeté de l'apparence des divinités, de l'écriture, qui est à la fois parlante parce que ce sont des pictogrammes, mais aussi extrêmement fermée à toute compréhension dès qu'on ne connaît pas l'écriture hiéroglyphique. Donc il y a toute une série de facteurs qui expliquent cette fascination possible pour l'Égypte. Et puis ça a été entretenu par des bandes dessinées, par des films, par des expositions, par tout ce qui s'est greffé autour de l'image de l'Égypte pharaonique. Et Champollion, avec le mythe, en quelque sorte, du déchiffrement, a encore alimenté cette fascination pour l'Égypte dans un contexte aussi français, hein, qui nous est particulier. Alors, on parlait de la rivalité entre les Anglais et les Français tout à l'heure. Au moment de la publication du précis du système hiéroglyphique, certains ont dit que cela vengeait finalement la confiscation de la pierre de Rosette. Donc c'est resté quand même une certaine forme de fierté nationale qui a été entretenue, d'où le succès de l'égyptomanie spécifiquement en France.
Merci à vous deux, Hélène Virenc, Laurent Coulon, d'être venu nous raconter l'histoire de la pierre de Rosette. Vous pouvez retrouver cette émission et les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci également à Loïc Dutoit pour la préparation de cette émission, à Sam Bakias à la réalisation. Aujourd'hui, à la technique, c'était Dalia. Toute cette fabuleuse équipe a grandi dans les années 2000. Impossible donc de passer à côté. On se quitte en musique avec Gravé dans la roche de Sniper.
Ouais. Dans ce rap biz, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était en voile bide. On fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le bide. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, où c'est que j'en suis? Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà, je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays est vide, des moments forts avec mon crew qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres.
C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe Baroud, ou qui restent postéchés au QG entre trouilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps, à qui fait rien faire, je suis presque un meuble qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon blast, gravé à la bougie sur les vitres du RER, SNIPER avec un putain de lettrage.
Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard, un jour notre place sera
gravé dans la roche.
Hey.
Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche.
Hey.
Sur disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche.
Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
Hey. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé, j'suis toujours le même enfoiré, je tourne pas ma TV, non. J'garde mes principes et mes points d'attache. J'kiffe pas la célébrité, j'ramasse juste mon cash pour mes points de repère, sinon j'suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est plus père. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. J'profite de la chance que j'ai, j'joue pas le guéri, j'me prends pas la tête. J'suis pas une vedette et j'veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches, j'me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01, 2001, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra.
Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
Lâche
pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Sur disque ou sous le porche, c'est
gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
J'ai presque arrêté le chanvre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem. Tu kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume mes clopes au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, ils soignent par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire, bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune, les mêmes raclis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zera Somroti ou Zokiati, les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly, de la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France.
Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
On
lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche.
Hey.
Je rappe ma vie, on persiste et on lâche pas prise.
On vient pour contrôler le réseau.
Marqué de mon nom